Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance.
Hey, you know what?
Réalisé par François Connac avec Julien Doumingue à la technique. Diffusé tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 11h, les nouveaux chemins sont préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie, Jeanne-Marie Roux et Adèle Van Rett. Adèle qui, à 10h50, recevra Yann Moulier-Boutan pour un ouvrage intitulé « L'abeille et l'économiste » paru chez Carnet Nord. Suite et fin déjà ce vendredi d'une semaine sur l'islam dans les nouveaux chemins de la connaissance. Après Leïli Anvar, venue lundi vous parler de la place des femmes dans l'islam, Marwan Rached, venue vous parler de la Grèce en islam, Mahmoud Hussein, venue vous raconter la vie du prophète, Makram Abbes, qui évoquait hier les rapports de l'islam et de la démocratie, c'est aujourd'hui l'ami Abdelwahab Medeb qui est l'invité des nouveaux chemins. Abdelwahab Medeb que nos auditeurs connaissent bien puisqu'il officie sur France Culture et pour le meilleur, tous les dimanches, de 22h10 à 23h dans Culture d'Islam. Abdelwahab Medeb, qui est également l'auteur, entre autres, de « La maladie de l'islam » paru au Seuil dans la collection « La couleur des idées » et de « Paris de civilisation » toujours édité au Seuil. Une fois passés les mois sacrés, tuez les incroyants, où que vous les trouviez. Prenez-les, assiégez-les, dressez-leur des embuscades. S'ils se repentent, font la prière, acquittent l'aumône, laissez-leur le champ libre, car Dieu pardonne, il a pitié. Si l'un de ceux qui ajoutent des dieux te demande asile, donne-lui asile, qu'il entende la parole de Dieu, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ils ne savent pas. Comment ceux qui ajoutent des dieux auraient-ils un pacte avec Dieu et son apôtre? Sauf ceux avec qui vous avez fait un pacte près de la mosquée sainte. Tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux, car Dieu aime les fidèles. Comment avoir un pacte avec ceux qui, s'ils triomphent de vous, ne respectent ni alliance ni engagement? Ils consentent en parole, mais leur cœur est rebelle, et la plupart sont pervers. Ils vendent à vil prix les versets de Dieu, et ils écartent de son sentier. Oui, mauvais leurs actes. Bonjour Abdelwahab Medeb.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue. Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance et sur France Culture où vous êtes chez vous, naturellement. Abdelwahab Medeb, les quelques versets que je viens de lire, extraits de la 9e sourate du Coran, disent en eux-mêmes, implicitement, la nécessité d'une lecture non littérale du Coran.
Ben là, vous avez fait le bon choix parce que vous êtes allé au cœur de ce que les intégristes qui proposent la lecture littérale aiment, alors que ceux qui veulent se détacher de cette lecture situent de tels versets dans le contexte de leur révélation, c'est-à-dire la guerre contre les païens menée par le fondateur de cette religion nouvelle. Et je dois rappeler que la couleur de ce type de verset n'est pas la seule dans le Coran, il y a de multiples autres couleurs, et que cette couleur n'appartient pas à un chromatisme propre au Coran. Nous la retrouvons aussi évidemment dans la Bible, c'est la dimension, je dirais, mosaïque de
belliqueuse.
Mohammed, belliqueuse. Nous rappelons le début dans Genèse, ce moment terrible face au veau d'or où il fallait une action immensément violente
et où
à peu près
Moïse ordonne le meurtre littéralement le meurtre, de 3000 personnes.
On dit qu'il y a eu 3000 personnes en une après-midi. Voilà, on est donc dans cet esprit-là. La chose la plus terrible, c'est que lorsque on lit littéralement ce type de texte, c'est ce que je dis d'ailleurs aux musulmans qui lisent littéralement ce type de texte, où il y a la violence, la déclaration de guerre jusqu'à la mort pour les païens. Que faites-vous des Chinois et des Indiens, surtout, qui vont être peut-être les futurs patrons du monde.
Effectivement, c'est une bonne question, mais surtout, en l'occurrence, que fait-on du Coran et comment sécularise-t-on une telle lecture? Faut-il l'historiciser, tout simplement, c'est-à-dire rétablir les choses dans leur contexte? Et comment, dans ces conditions, rétablir les choses dans leur contexte sans affirmer du même coup que ceci n'est pas la parole de Dieu, mais la parole des hommes en un temps donné, Abdelwahab Medeb.
Oui, alors là, tellement de questions dans votre question.
Et c'est-à-dire qu'on a si peu de temps, oui, 50 minutes, oui, pour aborder des problèmes, oui, si difficiles qu'autant poser toutes les questions. Et... Oui. Allez-y.
Moi, je voudrais qu'on reprenne la manière avec laquelle le Coran a été pensé dans la tradition islamique elle-même, puisque ce point de vue qui a triomphé, qui est actuellement immensément dominant dans le sens commun islamique, que nous avons affaire à la parole même de Dieu, n'allait pas de soi pour les premiers musulmans déjà, puisque dans la tradition islamique elle-même, nous avons deux éléments majeurs. Un, strictement historique, qui va être d'ailleurs profondément, tout ce matériau va être profondément exploité par les orientalistes qui vont travailler avec les moyens de l'historiographie moderne critique. Le fait que la formation même du Coran, la formation du Coran a été un débat qui a duré 4 siècles à l'intérieur même de l'islam. Nous avions même jusqu'au 4e siècle de l'Égypte des Corans concurrents, des versions multiples, des sourates qui existe dans certaines versions, qui n'existent plus dans la version canonique. Cette version qu'on appelle la version de Othman, selon la vision traditionnelle, en vérité, historiquement, elle n'a été fixée et elle n'est devenue dominante qu'au 4e siècle de l'Hijra, c'est-à-dire vers l'an 1000, vers notre an 1000. Ça, c'est le premier point qui est tout à fait historique. Et le deuxième point, le débat théologique, philosophique à propos du Coran, avec cette problématique qui est devenue une immense affaire d'État, qui a secoué la mégapole cosmopolite que fut Bagdad au début du IXe siècle. Nous sommes particulièrement avec un des fils du fameux Harun al-Rachid, doublement fameux parce que en correspondance et en relation et en alliance et en pacte d'alliance avec Charlemagne, d'une part, et donc connu ici, d'autre part, comme personnage évidemment des Mille et une Nuits, le personnage historique qui est devenu un personnage de fiction majeur. Ma'moun, qui a été un immense calife, probablement le calife le plus savant de la tradition.
Oui, dont on a lu le rêve aristotélicien, voilà, mardi dernier, voilà, cette discussion, voilà, qu'il a en rêve avec Aristote, c'était magnifique.
Voilà, tout à fait. Et lui, alors là, en rationaliste, il a opté pour la thèse des Mu'tazilites, cette école théologique qui a estimé que le Coran était créé et non pas incréé. C'est créé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire advenu dans le temps. Il s'agirait d'une inspiration divine advenue dans un langage humain. On serait très très près de la manière avec laquelle les chrétiens pensent les évangiles, les juifs pensent la Torah. Et évidemment, la thèse concurrente était celle du Coran incréé, c'est-à-dire la parole même de Dieu dans toute son éternité, dans le siècle des siècles, qui a été d'ailleurs un immense débat à l'époque. Ma'moun voulait imposer par la violence de l'État, par la violence impériale, par le sabre, la thèse que nous aimons. Malheureusement, cette thèse a échoué, n'a pas réussi historiquement, et c'est la thèse du Coran incréé qui a réussi. Et je pense que dans la lecture qui est la nôtre, dans cette volonté de vouloir acclimater l'islam au siècle, de faire en sorte que l'islam puisse tenir compte de l'évolution non seulement des mœurs, de l'évolution anthropologique de l'humanité, de l'évolution du savoir, de la manière avec laquelle nous approchons les discours, de la manière avec laquelle nous construisons même les discours, nous construisons nos raisonnements, nous construisons nos poèmes pour dire aussi cela même qui dépasse la raison par un texte qui témoigne de cette expérience intérieure. Pour tenir compte de tout cela, il me paraît très important de restaurer, de rappeler à tout le moins cette thèse du IXe siècle du Coran créé, parce qu'elle nous paraît beaucoup plus raisonnable et elle rend possible l'acclimatation, évidemment.
C'est-à-dire ce que vous appelez les Mu'tazilites.
C'est ça,
en l'occurrence. C'est un moment de l'islam très important, un rationalisme proprement musulman. Je voudrais savoir si cette réactivation que vous proposez, Abdelwahab Medeb, correspond au projet qui était celui de Spinoza au XVIIe siècle, dans le traité théologico-politique. Voici ce que Spinoza écrit en 1670. « J'ai formé le destin d'instituer un examen nouveau de l'écriture et de l'accomplir d'un esprit libre et sans préjugés, en ayant soin de ne rien affirmer, de ne rien reconnaître comme la doctrine sacrée que ce que l'écriture elle-même m'enseignerait très clairement. Je me suis formé à l'aide de cette règle une méthode pour l'interprétation des livres sacrés, et une fois en possession de cette méthode, je me suis proposé cette première question. Qu'est-ce que la prophétie? Et puis, comment Dieu s'est-il révélé aux prophètes? Pourquoi Dieu les a-t-il choisis? Est-ce parce qu'ils avaient de sublimes idées de Dieu et de la nature, ou seulement à cause de leur piété? Ces questions résolues, il m'a été aisé d'établir que l'autorité des prophètes n'a de poids véritable qu'en ce qui touche à la pratique de la vie et à la vertu. Sur tout le reste, leurs opinions sont de peu d'importance. Ce texte date de 1670, on est dans la préface du traité théologico-politique qui a fait scandale, qui a valu à Spinoza d'être voué aux gémonies. Néanmoins, c'est un travail qui a été fait sur la Bible, grâce à lui, notamment au XVIIe siècle. Est-ce un travail de cette nature, finalement, que vous en appelez ?
Évidemment, évidemment, mais ça n'a rien à voir avec les Maltésiens, là. On est à quelques pas, même des pas de géant après, hein. Il ne faut pas confondre les périodes historiques.
Ah non, il y a plusieurs siècles de séparation. Évidemment, néanmoins, évidemment. Il y a une lecture rationnelle d'un texte
non,
sacré.
Non, le texte de Spinoza est immensément important parce que philosophiquement, il va poser le problème, mais à la même époque, le chantier érudit sur la Bible va commencer dans cette perspective-là. Et d'évidence, pour moi, j'ai écrit tout un livre spinoziste à propos de l'islam. Vous savez, vous avez évoqué la maladie de l'islam, qui est le premier d'une série, Paris de civilisation, qui est le dernier, mais l'ensemble fait en fait 5 livres. Hein. J'ai fait en somme mon pentateuque, si j'ose dire. Et il y a tout un livre face à l'islam qui est profondément spinoziste, où je teste le dispositif spinoziste sur l'islam. Vous savez, Léo Strauss, en parlant de Spinoza, et qui n'aimait pas Spinoza parce qu'il estimait qu'il a fait partie de ceux qui ont malmené la tradition, de ceux qui ont créé cette dormition qui a fait que les Juifs n'avaient plus la garde, avaient la certitude de l'assimilation. C'est un texte profondément assimilationniste. Et Léo Strauss a pensé philosophiquement que les Juifs ont payé très très cher cette assimilation qui n'en est pas une, qui s'est révélée n'être pas une, puisque dans le pays où elle devait avoir lieu et avoir réussi le plus, c'est là qu'elle a le plus lamentablement échoué, le lieu de la civilisation qui a donné la plus haute des barbaries. Et lorsqu'il parle de Spinoza, il parle de mauvais juifs. Et moi-même, je me suis dit, nous avons besoin de créer la solidarité des mauvais. Peut-être que le dépassement de cette lecture littéraliste ne se fera que dans la solidarité entre le mauvais juif, le mauvais musulman, le mauvais chrétien.
Mauvais leur geste, hein, disait le verset 38 de la sourate, de la 9e sourate sur laquelle nous avons commencé cette émission, en votre compagnie, Abdelwahab Medem. On va entendre tout de suite, tiens, un autre mauvais musulman, c'est Averroès. Un Averroès de fiction, mais un Averroès magnifique, c'est celui du destin de Youssef Chahine, qui défend justement le principe d'une interprétation rationnelle des textes. Écoutez.
La sagesse conduit le docteur de la loi intègre à l'analyse dont se déduit le syllogisme. Et la loi divine a conduit les sages à l'analyse dont se déduit ce qu'on appelle la raison. La raison étudie la loi divine, l'érudition étudie la sagesse. J'affirme que ce qui est prouvé, sans être attesté par la jurisprudence, est sujet à interprétation. Aucun musulman croyant ne peut en douter. La raison est à la fois l'amie et la sœur de la loi divine. Les prétendus conflits entre raison et loi divine sont une invention mal intentionnée.
Abdelwahab Medem est l'invité des nouveaux chemins de la connaissance à l'issue d'une semaine sur l'islam. C'est de la question nécessaire de l'interprétation du Coran que nous parlons aujourd'hui. Abdelwahab Medem, dont je cite également le « Sortir de la malédiction » paru au Seuil. Dans quelle mesure, Abdelwahab Medem, est-ce être fidèle à la lettre du Coran que d'en proposer une lecture indexée sur la raison? Dans quelle mesure le Coran lui-même Invite-t-il son lecteur à faire ce propre travail? Dans quelle mesure, comment répondre finalement au littéraliste qui dit qu'en interprétant le Coran selon les lois de la raison, en historicisant également les déclarations qui s'y trouvent, notamment les versets les plus belliqueux, on ne trahit pas le Coran, mais on lui est au contraire d'autant plus fidèle?
Je voudrais d'abord faire une petite remarque, si vous voulez bien, sur l'extrait du film qui s'inspire évidemment du discours décisif. Là, ce n'est pas spinoziste parce que il pense que la vérité religieuse et la vérité philosophique
se trouvent dans le Coran.
Est convergente.
Oui.
Alors que pour Spinoza, elles sont totalement séparées. La très grande révolution de Spinoza, c'est celle-là. On admet la religion parce que c'est beaucoup plus un acte de foi.
Mais c'est Leibniz qui parle de conformité, voilà, de la foi et de la raison.
Oui,
c'est
oui,
autre chose.
Aussi, oui. C'est ça, voilà. Mais donc, la raison peut en effet trouver des limites, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est comment rendre viable pour nous aujourd'hui un texte qui est complètement marqué par le contexte de son apparition, quoi qu'on en dise. Mais il y a la partie contextuelle, comme il y a aussi la partie, si l'on veut, éternelle, qui est encore valide pour nous. C'est pour cela que la lecture que j'essaie de faire du Coran est celle qui cherche à privilégier l'horizon éthique par rapport à l'horizon du législateur, à l'horizon légaliste. Et nous pouvons là nous trouver une très très belle matière pour extraire cette dimension éthique du Coran.
Mais que répondez-vous donc à celui qui vous dit qu'en faisant cela, vous trahissez le Coran? À quel temps du Coran, quel moment du Coran presque, faut-il se référer pour faire valoir la nécessité de la lecture que vous proposez, c'est-à-dire d'une lecture qui n'est pas blasphématoire en un sens, mais qui est au contraire fidèle à la lettre du Coran, fidèle à sa manière?
Parce que tout simplement, les temps ont changé. Ceux qui prônent, prenons le cas d'un des très grands idéologues de l'intégrisme, l'Égyptien Saïd Qutb, qui parle au nom des frères musulmans et qui a écrit un texte redoutable, qui prend à la lettre, par exemple, les versets que vous avez lus au début de l'émission, vous imaginez ce que cela donne. C'est une déclaration de guerre perpétuelle, totalement insolvable à une époque comme la nôtre, à une époque qui, quoi qu'on en dise, demeure gérée par ce qu'on appelle le concert des nations. Et malgré toutes les guerres que connaît le monde, l'horizon du concert des nations, c'est la paix.
Ce qui est extraordinaire quand même, c'est de comprendre que là, on est au croisement. Fascinant, parce qu'on dit souvent que les livres font la paix ou que les livres, que la lecture ou la culture est propice à la paix. En l'occurrence, très clairement et très précisément, l'enjeu d'une lecture interprétative ouverte du Coran est un enjeu de paix. Séculariser le Coran est nécessaire, non seulement par probité philologique, mais également, Abdelwahab Medeb, pour rendre possible une lecture du Coran qui ne prend pas à la lettre, par exemple, l'appel au djihad.
Et l'autre élément qui me paraît essentiel pour aider les musulmans actuels à s'adapter au siècle et à entrer de plein pied dans notre siècle, c'est que nous avons les moyens de trouver des matériaux extraits de la tradition islamique elle-même. Quelqu'un comme Ibn Arabi, par exemple, était quelqu'un qui, dans son rapport avec le Coran, il nous dit « lorsqu'on lit le Coran, on voyage ». Et toute forme de voyage est une traversée. Et qu'est-ce que c'est que la traversée que propose la lecture du Coran? C'est la traversée du sens. C'est le fait justement de passer de la lettre à un sens qui est toujours instable, qui est toujours indécis, qui est toujours à reconstituer dans sa fragilité, dans son état provisoire, c'est-à-dire un appel à entrer dans l'infini du sens.
On va entendre un autre extrait du destin de Youssef Chahine, où cette entrée dans l'infini du sens passe aussi par le sentiment que, si la vérité s'y trouve, nul, en tout cas, n'en est le détenteur. Écoutez.
La connaissance des textes exige des années d'efforts, d'études approfondies et bien sûr de recherches et de réflexions personnelles aussi. Alors comment peut-on suivre ceux qui prétendent avoir reçu le savoir et qui méprisent ce verset du Coran? Au nom d'Allah le miséricordieux, tel homme ignorant se procure des discours futiles pour égarer les autres hors du chemin de Dieu et prendre celui-ci en dérision. Ceux-là subiront un châtiment ignominieux. Vraie est la parole du Tout-Puissant. Car nul n'a le droit de prétendre détenir la vérité ici-bas.
Et même le calife Al-Mansour, il est sujet à l'erreur?
Le grand imam Malek disait en désignant le tombeau du prophète les mots suivants. Toute personne peut être interrogée ici-bas, excepté celui qui gît ici. Tenez encore, l'imam El-Shafei disait qu'une opinion si vraie soit-elle peut paraître erronée, alors qu'une opinion d'apparence erronée peut être vraie.
Vous avez entendu? Il lui a encore cloué le bec.
Ce Borah n'est pas un auteur brillant.
Patience. Borah n'est bien plus rusé que vous ne le croyez, vous allez voir.
Mais le Coran est pourtant clair. Vous cherchez à nous faire douter de la révélation.
Tu sais sûrement ce que disait le prophète. Appliquez-vous. Si vous vous appliquez que vous atteignez la vérité, vous aurez deux parts. Si vous tombez dans l'erreur, vous aurez une part. Toute recherche mérite récompense. Dis, Seigneur, augmente ma science.
Quelle science? D'abord la foi.
Tu veux réécrire ce verset, peut-être?
Encore une fois, il l'a eu. Averroès dit que le texte a été révélé et les hommes peuvent, par l'étude, l'interpréter. C'est là que Borah aurait dû répondre. Le texte ne s'interprète pas.
C'est en reconsidérant le passé islamique, en dégageant ce qui, en lui, a contribué à faire évoluer, sinon muter, la civilisation, que nous aurons les moyens de dépasser les frontières de l'identité restreinte pour être des participants actifs sur la scène du monde, dans la reconnaissance de ce que nous avons été et de ce que nous sommes. Ainsi, cette politique et cette poétique du dépassement et de la neutralisation ne gagneront-elles leur efficience que dans la réinscription et le redéploiement de la référence fondatrice, et non dans son occultation ou sa méconnaissance. Ce n'est donc pas dans le déni de soi, mais dans sa reconnaissance que le sujet d'islam sera apte à agir sur le vaste théâtre de l'horizon cosmopolitique. Un plaisir de vous lire à l'antenne, Abdelwahab Medeb. Ce passage-là se trouve dans votre Paris de civilisation, dont la méthode, c'est Ibn Arabi qui le dit, sois Coran en toi-même. Il faut intérioriser le Coran, en actualiser l'énergie inspirante, en se faisant soi-même Coran.
Oui, c'est-à-dire se retrouver tout simplement sur la scène en laquelle s'est trouvé le prophète face à l'ange. Vivre cet instant, ce miracle et ce mystère de la révélation, pour dire que cette parole porte en elle, quoi qu'on en dise, même si le Coran lui-même dit que cela est écrit et dit et que ça a été révélé en langue arabe claire, tout ce que ce texte peut porter de mystérieux. Mais vous savez, les musulmans qui n'aiment pas Ibn Arabi, vous savez qu'est-ce qu'ils reprochent à Ibn Arabi? Ils disent qu'il est christique parce qu'il nous introduit au mystère. Et justement, soyons tous, tout en demeurant musulmans, christiques, si c'est ça le prix pour aménager le mystère du sens.
Je me demande si, d'une certaine manière, la lecture que vous proposez du Coran n'est pas un peu nietzschéenne, pour le coup. Quand Nietzsche, dans Le Gai Savoir, décrit que notre monde est redevenu infini parce qu'on ne peut plus lui refuser la possibilité de se prêter à une infinité d'interprétations, moment fameux dans lequel Nietzsche explique notamment qu'il n'y a pas de fait, mais que des interprétations, où on a le déploiement implicite d'une herméneutique indéfinie, presque talmudique d'ailleurs.
Oui, talmudique absolument, et ça peut l'être. Et d'ailleurs, Ibn Arabi lui-même donne des exemples talmudiques. Je ne sais pas si vous avez rencontré dans votre lecture, certainement, vous avez rencontré dans votre lecture de Paris de civilisation cette anecdote que je rapporte du juif de Kairouan qui se fait justement l'interprète, qui fait un exercice herméneutique du texte coranique lui-même sur le mode talmudique. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne puisqu'il a réussi à indiquer la voie du voyage pour quelqu'un, un musulman, un pieux musulman qui s'est proposé à procéder au voyage de la Mecque et donc à s'acquitter du devoir de pèlerinage.
Se trouvant à la Mecque, Ibn Arabi y rencontre un cordouan, Moussa ibn Muhammad, qui lui raconte le récit d'un Kérouanais qu'il a connu dans la ville sainte. Ce pieux Kérouanais a précisé à son interlocuteur les circonstances qui l'ont conduit à accomplir son pèlerinage. Il s'agit sûrement d'un homme qu'on appelle dans la tradition spirituelle un maître du scrupule. Un soir, il prend la décision de faire le pèlerinage de la Mecque, puis il se dit « Comment vais-je voyager ? Par terre ou par mer ?» C'est devenu pour lui un débat intérieur sans réponse. Pour son apaisement, il se dit « Je poserai la question à la première personne que je rencontrerai au petit matin. » À sa sortie, il se découvre face à un juif. Il est d'abord déçu, puis s'enhardit et l'interroge. « Ô juif, je te demande conseil à propos de mon voyage. Dois-je emprunter la voie terrestre ou maritime ?» Et le juif de répondre « Par Dieu, c'est quelqu'un de ta qualité qui pose ce genre de questions. Ne vois-tu pas que Dieu vous dit dans votre livre « C'est lui qui vous conduit, et sur terre et sur mer ?» Il fit avancer la terre sur la mer. N'y a-t-il pas là un secret de Dieu ? Ce qui vous conviendra, c'est ce qu'il a mis en premier. Et il n'a mis en dernier la mer que pour la laisser aux voyageurs en ultime recours. Le pèlerin fut agréablement surpris par ces paroles et entreprit son voyage en empruntant l'itinéraire terrestre. Et par Dieu, jamais je ne fis un voyage pareil, chargé de bonté divine, bien plus que je n'espérais. Abdelwahab, mesdames, vous racontez que votre prédisposition à une lecture, dites-vous, poétique, il faudrait revenir d'ailleurs sur le sens que vous donnez à ce terme poétique, s'il s'agit de création, au sens où la création serait le réarrangement d'éléments déjà présents. En tout cas, cette prédisposition dont vous parlez à une lecture poétique du Coran vous vient de votre premier contact avec la langue coranique, une étrange familiarité de la langue coranique qui fait place au mystère. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ben écoutez, tout simplement, dès l'âge de 4-5 ans, 6 ans, j'ai eu des exercices d'enseignement, de récitation coranique avec mon propre père. Et donc, ma langue maternelle étant le vulgaire de Tunis, je me trouvais face à cette langue qui nous vient, dans le meilleur des cas, du 8e ou du 9e siècle. Vous voyez que j'historicise, là, je ne dis pas du 7e.
Et que donc, rappelons que le 7e siècle, c'est la naissance de l'islam.
Voilà, la naissance de l'islam. Et qu'en principe, le Coran nous viendrait de la matrice médinoise et mécoise autour des années 620-630. Mais donc, pour vous dire, même si les linguistes nous disent que l'arabe est une langue qu'on conserve, c'est-à-dire qu'elle a peu évolué, nous avions affaire, disons, pour un gosse qui se retrouve face à une langue qui serait, pour un Français du même âge aujourd'hui, qui serait celle de Villon ou de Rabelais. Hein, vous imaginez un peu l'étrangeté que cela peut susciter. Donc, sans comprendre, on plonge dans le texte, qui est ce texte coranique, et personnellement, j'ai vécu ça avec une énorme terreur, mais immense fascination. Parce que j'avais l'impression que je cheminais, c'est l'image donc que je vous rapporte, dans une forêt obscure avec de temps en temps des moments de clairière, où le sens devient totalement clair, parce que le mot soleil, le mot jour, le mot heure, le mot temps sont les mêmes que ceux qui se trouvent dans le dialecte de Tunis qui était ma langue maternelle. Et ce passage de la langue maternelle à la langue paternelle a été pour moi une extraordinaire initiation. J'ai vécu profondément la diglossie de l'arabe et quand je parle de poésie, la poésie appartient à l'idiolecte propre au texte littéraire. Le français lui-même est marqué par ces deux niveaux de langue très différents entre le langage parlé et la langue de Baudelaire, par exemple, la langue de Mallarmé, évidemment. Donc c'est là où je dis qu'à partir dès ce très 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 jeune âge, j'avais comme l'impression que j'étais déjà introduit dans l'atelier du poème.
Est-ce que c'est mal interprété ou surinterprété ce que vous dites que de proposer l'interprétation suivante, justement, que en vous proposant de faire trembler le texte. L'expression est de vous, Abdelwahab Medeb. Elle était de Lévinas, avant d'être de vous d'ailleurs.
On la trouve aussi chez Édouard Glissant.
Et on la trouve aussi chez Édouard Glissant. En vous proposant donc de faire trembler le texte à l'image de ses prédécesseurs illustres, est-ce une façon pour vous de rendre, dites-vous, le sens à son obscurité, de renvoyer le texte à son infini, ce qui ferait, dites-vous encore, de son interprétation une tâche perpétuelle, jamais achevée, en vous proposant de faire ce travail-là, est-ce est-ce une façon tout simplement pour vous de renouer avec l'émotion qui était celle de l'enfant, découvrant, fasciné, un texte qu'il ne comprend pas, mais qui le comprend, lui ?
Oui, absolument, et qui m'amenait à produire mon propre texte, c'est-à-dire la carence du sens, je l'ai réparée. Moi, je trouvais cette lecture absolument fascinante et extraordinaire. Et je crois que si je suis devenu écrivain, c'est en raison de cette expérience première. Vous savez que pour tout écrivain, la première scène, comme diraient les psychanalystes, est majeure. Quelqu'un comme Duras ne parle que de cela, et elle estime que tout son projet d'écriture est né là. Quand bien même mes derniers livres seraient des essais, il y a en eux ce tremblay du poème, me semble-t-il. Et pour parler de cette indécision du sens, je voudrais rappeler la manière avec laquelle il faudrait dire peut-être des choses techniques qui sont passionnantes, mais qui sont proches finalement.
On va y venir, oui, on y vient. Voilà. Allez-y.
Qui sont proches de ma propre expérience. Les tout premiers documents coraniques qui nous sont parvenus, nous en avons d'ailleurs un certain nombre qui sont conservés à la Bibliothèque nationale de France, et nous avons d'ailleurs un compatriote. Monsieur Desroches, François Desroches, un paléographe, épigraphiste qui travaille de manière extraordinaire sur ces textes-là, il faudra rappeler à nos auditeurs qu'il s'agit de textes avec une transcription a minima. Une même lettre qui va être distinguée dans un deuxième temps dans la graphie arabe en ajoutant les points diacritiques, une même, la lettre B, T, Y, F s'écrivait de la même manière. Donc, véritablement, la lecture qui en a été faite par la suite est une lecture interprétative. Nous avons un exemple d'une sourate très fameuse et qui paraît très obscure et qui a fait tellement couler d'encre dans la tradition exégétique parce que les gens ne comprenaient pas. Je vais vous la lire. C'est une des toutes dernières sourates brèves en trois versets. Nous t'avons donné l'abondance. Prie donc pour ton Seigneur et sacrifie. L'ennemi qui te hait, c'est lui qui est sans postérité. Je vous défie de me dire ce que vous comprenez. Absolument incompréhensible. Alors les exégètes ont essayé de dire que là, c'est une réponse de Dieu à l'égard d'un homme qui a insulté le prophète parce que le prophète n'engendrait pas de garçon mâle et que voilà, donc, et qu'il s'agirait de cela. Le même texte, la même graphie, lise autrement. Mettant les points diacritiques autrement. C'est le travail qui a été fait par Luxemburg, en s'appuyant pratiquement sur ce rapport entre l'arabe et la langue du Christ, le néo-araméen. Donnerait un texte beaucoup plus cohérent, à tout point de vue, dans le sens lui-même et dans la genèse et la généalogie du texte. Cette sourate deviendrait ceci. Nous t'avons donné la constance. Prie donc ton Seigneur et persévère. Celui qui te hait, Satan, c'est lui le vaincu. Et qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre que cette sourate ne serait rien d'autre qu'une réminiscence de Pierre, hein, la première lettre de Pierre, de Saint-Pierre. Réveillez-vous, éveillez, frères, car votre adversaire, le Satan, tel un lion rugissant, rôde en cherchant qui dévore. Résistez-lui donc en demeurant ferme dans la foi. Génial. Une interprétation coranique de Pierre qui est tout à fait plausible au vu que le contexte dans lequel a grandi spirituellement le prophète de l'islam était un contexte qu'on appelait le contexte judéo-chrétien, au point où on se demandait s'il n'y avait pas au temps de l'islam une sorte de climat religieux judéo-chrétien qui dépasserait, qui excéderait, qui sortirait des frontières et du judaïsme et du christianisme, ce qui donnerait une immense prédisposition historique à ce que sera l'islam.
On comprend en vous écoutant qu'il n'y a pas d'univocité possible dans l'interprétation du Coran.
Impossible.
Puis, c'est nécessairement pluriel.
On revient de nouveau là à Averroès, puisqu'il a été présent dans notre émission. Je rappelle, sur la citation de tout à l'heure, parce qu'elle est très très belle, que dans le très beau livre d'Averroès, parce qu'Averroès a été aussi cadi, il a été jurisconsulte musulman. Et il a agi avec, évidemment, les moyens de l'instrument grec, de ce qu'il appelle l'instrument grec. Son livre, dont le titre est très, très beau, « Ici commence celui qui fait effort d'interprétation. Là s'arrête celui qui en fait l'économie. Celui qui veut être dans l'université du sens, n'a pas à ouvrir mon livre. Et ce livre, dans l'intégralité de ses chapitres, il commence par un mot. وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَا. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les jurisconsultes, les docteurs de l'islam, n'ont pas été en accord sur telle question. Et ils donnent la série des opinions divergentes et ils optent pour l'une d'elles, très souvent la plus douce, la plus agréable.
Tiens, on va retrouver justement Averroès dans ses œuvres. Écoutez.
La révélation est un don réservé à la seule créature douée de raison, c'est-à-dire l'homme. La loi divine conjugue raison et révélation. La loi divine s'efforce de cerner la cause même des choses, leur effet, définit les buts et les moyens de les atteindre. La révélation intègre la raison, et la raison fait sienne la révélation.
Hein ?
La religion se confond avec l'ignorance pour certains jeunes, alors que certains vieux érigent l'ignorance en religion. Les trois jeunes accusés ont sombré inconsciemment dans la perdition. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'ils y ont été poussés à leur corps défendant. L'islam, dans sa grande équité, refuse de condamner ceux dont le jugement a été perverti et la raison égarée. La cour, usant de toute sa clémence, ne requiert pas la peine capitale contre eux. Elle condamne les trois accusés à une peine de 5 ans de réclusion. Tout-puissant est celui dont on dit « Nul ne l'interroge sur ce qu'il fait, mais les hommes seront interrogés ».
Abdelwa Medeb est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance à l'issue d'une semaine sur l'islam. C'est de la nécessité et de la possibilité d'interpréter le Coran que nous parlons aujourd'hui. Quelques mots, Abdelwahab Medeb, pardon, sur votre rapport à Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, dont on connaît mal, dont on cite assez peu, étrangement, les grands passages ouvertement islamophobes qui se trouvent dans Triste Tropique. Pour le dire très rapidement, Lévi-Strauss dit de l'islam que c'est une religion masculine et qu'au Xe siècle, pas d'où vient cette datation, mais au Xe siècle, quand l'Europe a choisi l'islam, au Xe siècle, la phrase est de lui, hein, je le cite de mémoire, mais c'est vraiment ça, je n'interprète pas ici son texte, je ne fais que le restituer, quand au Xe siècle, l'Europe a choisi l'islam et que la France, depuis 1950, s'est islamisée, c'est une erreur, c'est une tragédie, l'Europe aurait mieux fait de choisir le bouddhisme, religion féminine. Voilà en substance hein, le propos de Lévi-Strauss qui détestait donc l'islam sur ce motif-là. Vous vous servez de Lévi-Strauss dans un autre sens, vous ?
Oui, il en fait même l'islam seraient les troupes dans la caserne. Quoi, voilà.
Il dit c'est Mahomet, c'est Napoléon.
Voilà, et le principe donc, masculin, en effet, qui triomphe du principe féminin, et il en veut beaucoup à cet islam qui a masculinisé l'Europe et l'éloigné du principe féminin qui serait l'Inde. Oui, bien sûr, mais j'ai découvert qu'il y a un passage dans le Coran qui est en correspondance totale avec un très beau texte de Claude Lévi-Strauss, un de ses premiers textes qu'il avait écrit à la fin des années 40, où le Coran dit ceci, c'est justement ce verset 48 de la sourate 5, où, à partir duquel j'extrais le primat de l'éthique dans le Coran. « À chacun de vous, nous avons tracé une voie et une orientation. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une communauté unique, mais il tenait à vous éprouver parce qu'il vous octroie. Partez en course pour les bonnes œuvres vers Dieu. » C'est la traduction absolument littérale. Dans un article de Lévi-Strauss, nous pouvons trouver une clé d'interprétation pour cette sourate. Il s'agit donc, parce que cette sourate est contradictoire, la sourate 5, puisqu'il y a des passages qui sont très très violents contre les juifs et les chrétiens, et il y a cet appel à ce que tout le monde parte en course. et qu'il y a donc nécessité de reconnaître la pluralité des religions. Il s'agit d'une étude publiée en 1949 pendant la séquence américaine de l'auteur, alors que le monde venant de sortir de la guerre mondiale entrait dans la guerre froide. Cet article concerne la politique étrangère d'une société dite encore à l'époque primitive, société d'Indiens d'Amazonie, les fameux Nambikwara.
Nambikwara, oui.
Voilà, chez qui l'auteur passa plusieurs mois de l'année 1938. Écrit donc dans cette situation historique entre guerre et paix, il offre implicitement et d'une manière déclarée des leçons pour les temps présents. L'enjeu, on est de constater que la violence qu'un groupe exerce contre un autre groupe engage la possibilité d'un partenariat. Mais Lévi-Strauss estime à la fin de son texte que nous avons perdu cette possibilité à notre époque. Nous ne pensons plus l'humanité, là je cite Claude Lévi-Strauss, comme un ensemble de groupes concrets entre lesquels doit s'établir l'équilibre constant entre la compétition et l'agression, avec des mécanismes préparés d'avance pour amortir les variations extrêmes susceptibles de se produire dans les deux sens. Nous n'avons su conserver ce schéma institutionnel que dans le domaine des relations sportives. Donc dans le verset cité, le Coran se saisit de la métaphore sportive pour mettre en équilibre la balance entre compétition et agression. Je trouve que là, je répare d'une manière extraordinaire ce qui serait incontestablement un procès pour islamophobie, si on revient dans la jurisprudence que semble s'installer de nos jours, au fameux passage que vous citiez dans Triste Tropique.
Bah, c'est-à-dire que si on mettait les passages qui se trouvent dans Triste Tropique dans la bouche d'un islamophobe officiel aujourd'hui, il y aurait probablement des manifestations et des manifestations qui seraient constituées d'ailleurs pour la plupart vraisemblablement de lecteurs de Claude Lévi-Strauss.
Remarquez, il y a une remarque de Lévi-Strauss qui mérite méditation pour nous tous aujourd'hui. Il estime que les problèmes de la France sont ceux-là même de l'islam, c'est-à-dire une très grande tradition qui a eu un très grand moment de gloire, avec des institutions qui ont été très efficaces. Tout cela s'est figé au point qu'on se trouve en situation de crise quant au présent. Et Lévi-Strauss pense que la situation française, déjà dans les années 50, a les mêmes problèmes, si l'on veut, les institutions héritées de Napoléon qui sont restées figées. Et vous savez très très bien que ce qu'on appelle la crise de la société française est en implication avec cette remarque.
Mais en même temps, est-ce que, d'une certaine façon, vous n'êtes pas, de manière apagogique, d'accord avec Lévi-Strauss, dans la mesure où Lévi-Strauss déteste l'islam parce qu'il déteste l'Occident? Pour lui, l'islam, c'est la figure de proue de l'Occident. C'est ce que l'Occident a produit de pire, en gros. Hein. Or, on vous a reproché, à vous, de vouloir, à l'inverse, justement, occidentaliser l'islam, et finalement, d'aimer l'islam parce qu'il était conciliable avec la civilisation occidentale. Est-ce que, d'une certaine manière, vous n'êtes pas, de ce point de vue, paradoxalement, d'accord avec Lévi-Strauss?
Ce que je privilégierais de l'islam, c'est sa part féminine, et cette part féminine s'exalte profondément à travers le corpus soufi. On a ce miracle du soufisme qui est donc immensément dense, immensément riche. Et là, si on revient à Ibn Arabi, chez Ibn Arabi, le principe féminin est au centre de la cosmologie et de l'ontologie. Et le principe même de l'interprétation du ta'wil est un principe féminin. L'infini du sens se retrouve dans l'horizon de la féminité.
Tiens, on va entendre justement un poème d'Ibn Arabi que vous citez vous-même dans Paris de civilisation, un poème sur les gazelles, le soleil et les statues. Écoutez.
À Dou Salam et le couvent près de Hima, des gazelles te montrent le soleil sur des statues. J'observe des sphères, je sers dans une église. Je garde un pré au printemps bigarré. Tantôt on me nomme berger de gazelles dans le désert, tantôt moine ou astrologue. Mon bien-aimé est trois quand il serait un, telles les personnes qu'ils ont faites une dans l'essence. Ne renie pas, ami, m'ont dit. Un soleil éclaire des gazelles tournant autour des statues. Aux gazelles des coups, au soleil des faces, à la blanche statue buste et bras. Comme nous avons prêté aux branches habits, au jardin vertu et sourire à l'éclair.
On parle beaucoup de dialogues de religion à notre époque, mais les dialogues de religion, c'est proprement impossible, parce que dans les religions, chacun est dans sa vérité, et si on se dégage de sa vérité, on n'est plus dans la religion, comme nous le sommes aujourd'hui. Nous parlons de la religion hors de la religion, ça vous l'admettez. Ce que je veux dire par là, c'est que plus que le dialogue des religions, c'est la question de la substitution. Dans ce poème, Ibn Arabi, en tant que musulman, tout en restant musulman, se met à la place du chrétien et endosse le dogme même des chrétiens qui est considéré comme un scandale absolu dans la théologie musulmane.
Le dogme trinitaire.
Le dogme trinitaire, regardez
Mon bien-aimé est trois quand il serait un.
Comme ils ont. Mon bien-aimé, regardez comme c'est beau là le travail, parce que j'ai été immensément précis dans la traduction pour être au plus près du régime, de l'instabilité du pronom comme dans l'original. Mon bien-aimé à la première personne, c'est-à-dire moi qui suis musulman, mon bien-aimé est trois quand il serait un, comme ils ont fait des personnes. Le « il » à la troisième personne du pluriel renvoie aux autres, aux étrangers, à ceux, aux adeptes de l'autre croyance, au christianisme. Et cette substitution me paraît une des très belles choses avec lesquelles donc, on va visiter la scène des autres croyances, essayer d'en comprendre toute l'intelligence sans chercher à l'escamoter, et puis après, revenir chez soi. Nous sommes très très près, là aussi j'ai utilisé un terme, profondément lévinassien, nous sommes au cœur de la problématique de la substitution et nous la retrouvons dans cette tradition soufie. Vous voyez tout ce qu'on peut tirer de la tradition islamique elle-même comme concepts qui sont en convergence avec nos concepts actuels.
C'est un travail merveilleux. Où en est-on de ce travail, justement?
Écoutez, que reste-t-il? Moi, je le fais en toute liberté, parce que j'ai la liberté du poète, même si je fais effort pédagogique. Et comme vous avez vu, que je cherche quand même à transmettre une certaine manière d'être, de dire, de vivre le texte aux musulmans. Mais ce n'est pas mon travail. Moi, je suis avant tout poète. Je lis en dernier instant, le Coran a une implication énorme pour moi parce qu'il y a ces considérations biographiques, mais je lis pour entretenir mon arché, je lis le Coran. Je lis le Coran comme je lis Échille, comme je lis Héraclite, comme je lis Empédocle. Mais actuellement, beaucoup de musulmans n'en peuvent plus de la situation qui est faite à l'islam. Et enfin, l'autorité religieuse est en train de réagir. Là, je rentre du Caire. Il y a 48 heures, j'ai été en rencontre avec le grand Cheikh d'Al-Azhar, qui vient d'être nommé, Ahmed Tayyib, qui est d'ailleurs francophone, qui aime beaucoup le soufisme. Et il m'a dit que lui, il a décidé pour son mandat de mener la guerre au littéralisme et la guerre au wahhabisme. Voilà une bonne nouvelle, que chacun fasse son travail. Je fais mon travail de poète, lui, il fera un travail de halem. Les oulémas ont quitté la scène, ont laissé les ignorantins et les littéralistes triompher. S'ils vont agir, ça va être une très très belle annonce.
Dieu vous entende, Abdelwahab Medem. Merci encore donc Abdelwahab Medeb. Avec vous s'achève cette semaine sur l'islam. Deux, trois choses importantes. Hein. Sur les docks du vendredi 7 mai, les chrétiens en Algérie, un très beau documentaire de Khaled Sid Mohand avec une réalisation de l'ami Gilles Davidas. Je signale également, je renvoie l'auditeur au premier chapitre en particulier de votre livre, Abdelwahab Medeb, Sortir de la malédiction, où vous vous livrez à l'exercice auquel on s'est essayé aujourd'hui dans cette émission. Et enfin, un salut amical aux élèves de l'Institut Télémaque et à Alain Pinault. منهم بالقيطارة لعقب البندير يبقى Non, ce n'est pas les Clash, c'est Rachida. Et on en a fini pour l'heure avec nos réflexions autour de l'islam. C'est l'heure de retrouver le journal des nouveaux chemins de la connaissance et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël.
L'abeille et l'économiste.
Oui, bonjour à tous. On parle de finance et de crise économique aujourd'hui, mais à l'aide d'un vocabulaire original qui va des abeilles et du miel au capitalisme cognitif et à la pollinisation. Tous ces drôles de termes, on les découvre à la lecture d'un essai incisif et imagé de l'économiste Yann Moulier-Boutan, intitulé « L'abeille et l'économiste » et qui sort ces jours-ci aux éditions Carnet Nord. Bonjour Yann Moulier-Boutan.
Bonjour.
Alors j'ai commencé en citant quelques termes, quelques notions, voire quelques néologismes qui sont des termes clés de votre essai, parce qu'il me semble que ça traduit bien votre volonté de proposer une nouvelle grille de lecture et donc un nouveau vocabulaire pour tenter de penser la crise économique et générale actuelle. Et ce besoin de proposer une nouvelle compréhension de la crise ne se ramène pas seulement au désir de dire à tout prix quelque chose de nouveau et d'original sur ce qui se passe, mais au contraire, de mettre en garde, et vous insistez sur ce point, contre le risque qu'il y a à vouloir faire des parallèles avec le passé, à vouloir transposer les schémas des crises précédentes à celles que nous traversons en ce moment. Et vous essayez donc de mettre en garde contre cette mauvaise méthode qui consiste à penser que l'histoire se répète et qu'il suffit de tirer les leçons du passé pour se prémunir contre les dangers actuels. Yann Moulier-Boutan.
Oui, vous savez qu'il y a eu une réunion de 200 économistes récemment à Cambridge, le haut du volet. Enfin, véritablement le summum, et ces économistes se sont réunis en disant « il y a crise, qu'est-ce que la science économique nous offre ?» Elle qui était vraiment la science maîtresse, et que pouvait-elle proposer ? Et on s'aperçoit qu'au bout de plusieurs jours de débat, il n'y a pas grand-chose qui sort. La commission de réforme du PIB, également, a terminé en disant « il faut réviser le PIB, il faut tenir compte du bien-être ». Avouez que c'est un petit peu court, compte tenu de ce que la philosophie dit sur le bonheur, le bien-être depuis des siècles. Alors, je pense qu'il faut... La crise actuelle est une crise de l'économie, de la science économique, avant d'être une crise économique. C'est d'ailleurs son paradoxe, parce que si vous vous promenez dans la rue, ça n'est pas la crise des années 30. Il y a de la précarisation, mais il y a de la production. On ne brûle pas le café dans les locomotives. En revanche, on a des crises beaucoup plus sérieuses que nos ancêtres n'auraient jamais imaginées. C'est celle de penser que si nous continuons comme ça, il faudra 5 terres pour arriver à produire des voitures. Alors, donc on a une crise. Donc il faut repenser les catégories. C'est là où, si vous voulez, au fond, ça regarde aussi les philosophes. Et je suis revenu au texte fondateur de l'économie politique. À savoir la fable des abeilles de Mandeville.
Oui, d'où la référence à l'abeille dans le titre.
Donc pas pour cette raison. Mais il s'est trouvé que c'était très bien, car c'était une des fables fondatrices. Tous nos auditeurs savent que l'économie commence lorsqu'on dit aux gens « Tu ne peux pas faire la cigale, il faut que tu fasses la fourmi ». C'est ce que le gouvernement dit tous les jours. Travailler davantage, épargner, etc. Et puis, Mandeville est venu et a jeté ce pavé dans la mare.
Début du XVIIIe siècle, la fable des abeilles,
il s'est fait d'ailleurs traiter de Man Devil, d'homme infernal. Il a commencé à dire, autrefois on disait, dans une société juste, les vertus privées font les vertus publiques et les vertus du roi font quelque chose de bien. Il faut que le roi soit chrétien pour que la société soit juste. Et lui, il a dit pas du tout, il faut que la société, une société vicieuse, avec des vices privés, fait finalement une société de croissance. Et Adam Smith a enfoncé le clou en disant qu'il n'attendait pas de la vertu de son boulanger et de son boucher que cela lui permette d'avoir du pain sur la table tous les jours. Il faisait confiance à l'appât du gain, à l'égoïsme, etc. Et donc tout ça, c'était là qu'il a mobilisé la fable des abeilles. Moi, j'ai refait une fable des abeilles, mais c'est une fable des abeilles qui part d'un autre constat. Qui part du constat, au fond, d'une science complexe qui est la science du vivant.
Mais vous avez refait une science des abeilles au sens propre,
J'ai fait une fable de 180 vers à La Fontaine, parce que je pense qu'elle a un statut un peu fondateur. L'idée est la suivante, c'est que dans la société, tout ne se règle pas par le marchand ni par l'échange. Et la richesse n'est pas forcément mesurable par le produit vendu par les gens. Qu'est-ce que fait un enseignant ? Il apprend lui-même en apprenant, et c'est quelque chose d'extrêmement difficile à mesurer. Il y a des tas d'activités comme ça dans la société qui sont des activités alors que j'appelle de pollinisation.
Alors qu'est-ce que c'est que la pollinisation ?
Alors l'abeille, le paradoxe, c'est que si vous demandez ce que fait l'abeille, on vous dira l'abeille fait du miel. Ou de la cire. Hein, elle produit aussi de la cire pour faire des bougies. Et puis, vous vendez ça et vous savez ce que valent les abeilles. Manque de chance, l'abeille, pour les économistes classiques, l'abeille fait quelque chose de beaucoup plus essentiel. Et à la limite, on se fiche de son miel. On pourrait le jeter à la poubelle. Il n'a aucun intérêt. C'est qu'elle pollinise la quasi-totalité du vivant végétal. Et donc, 80% en cherchant du miel et en s'alimentant pour elle et pour nourrir ses larves, elle transporte le pollen et elle opère la reproduction du vivant. Alors, le rapport est très simple. J'ai fait des calculs et puis maintenant ils sont corroborés. Si l'opération de vente de miel vaut 1, l'opération de pollinisation vaut quelque chose comme 350 et 1000. Alors évidemment, vous voyez qu'on change de base, le monde change de base, au sens où on s'aperçoit que l'interaction complexe humaine est la vraie richesse, que la culture est une force économique de premier ordre et qu'il n'y a simplement que des gens extrêmement frustres formés à l'école du tout échange et du tout marchand du 19e siècle et de ceux pour qui seule existait la production de charbon ou le volume de pétrole, qu'au fond, on pouvait considérer que c'était des activités inutiles des cigales. En fait, dans l'histoire, il se pourrait fort que, premièrement, la fourmi ne fasse pas ce que La Fontaine dit. Les fourmis ont un rôle beaucoup plus important que d'épargner. En fait, elles mobilisent, elles rendent le sol meuble. Elles jouent un rôle considérable dans la biomasse. Quant aux cigales que l'on traite de tous les noms, par exemple les intermittents du spectacle, etc., ils sont très utiles. Ils sont même la première force économique et de très loin. Et nous sommes en train de basculer dans une économie de ce type. Nous sommes en train de basculer dans une économie de pollinisation, de coproduction, de coopération, de confiance, toutes ces choses immatérielles à qui il faut donner une valeur si on ne veut pas commettre d'énormes bévues.
On a compris ce que c'était que la pollinisation. Et pour comprendre ce qu'est le capitalisme cognitif, je renvoie les auditeurs à votre livre, donc L'abeille et l'économiste. Et on trouve ça aux éditions Carnet Nord, ça sort en ce moment. Merci beaucoup.
Mais ça a l'air tout à fait passionnant. Vous vouliez nous parler de quoi également, Adèle ?
Il y a un livre sur le Caire, non pas la capitale de l'Égypte, mais la traduction anglaise du soin, de la sollicitude ou de l'attention en français. Le Caire, C-A-R-E, donc, qui fait l'objet de théories philosophiques auxquelles on trouve une bonne introduction dans ce petit livre qu'on trouve au PUF, dans la collection PUF Philosophie. Les deux auteurs, Marie Garraud et Alice Le Goff, présentent les différents concepts qui sont en jeu dans les théories du Caire. La dépendance, notamment, qui est le fait d'être toujours tributaire des services et de l'attention d'autres personnes dans nos activités, y compris les plus quotidiennes. La dimension féminine du Caire également, et la question de savoir si l'on peut penser le soin et la sollicitude à partir de schémas qui ne seraient pas féminins ni maternels. Et surtout, la notion de justice, puisque les auteurs montrent que ces réflexions sur le Caire ont conduit à des reformulations importantes des théories contemporaines de la justice, dans la mesure où ces réflexions se basent sur la prise en compte et la prise au sérieux de la vulnérabilité des citoyens. Voilà, donc on est au croisement de la philosophie morale, de la sociologie, de la théorie politique. C'est Caire, justice et indépendance, introduction aux théories du Caire. C'est par Marie Garraud et Alice Le Goff et on trouve ça aux éditions PUF.
Justice et dépendance, vous vouliez dire, Adèle.
Et
indépendance, c'est presque pareil. Vive les cigales et merci à tous du Coran, à l'abeille, du soufisme, à l'économisme. C'était pourquoi pas le chemin du jour. Une émission que vous pourrez retrouver comme toutes les autres sur Internet à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance où vous attendent le téléchargement des émissions de la semaine, l'écoute en ligne des émissions du mois et une bibliographie indispensable où vous retrouverez notamment la liste des travaux d'Abdelwahab Medeb mais également de Yann Moulier-Boutan. Medeb, justement, Abdelwahab Medeb, que vous retrouvez sur France Culture dans Culture d'Islam le dimanche de 22h10 à 23h dans une réalisation de François Connac en personne. Changement de décor la semaine prochaine, c'est d'imagination que nous parlerons. La reine des facultés ou la folle du logis, selon que Baudelaire ou Malebranche vous la raconte. À lundi donc, de 10h à 11h comme tous les jours. Pour l'heure, il est 10h59 sur France Culture et dans un instant, question d'époque.